Bonsoir à chacun, bonsoir à chacune. Nous sommes devant Dieu, tous. Il y a des moments où nous nous rassemblons pour les âmes perdues, parce que la volonté de Dieu, c'est que les âmes perdues soient amenées à Christ. Il arrive que ce soit l'Église qui se rassemble pour être perfectionnée, afin que nous nous apprenions à devenir meilleurs. Car la volonté de Dieu, vous le savez, c'est le perfectionnement des saints. J'ai eu à cœur de partager avec vous plusieurs aspects du service. Vous savez que depuis quelques mois, avant mon AVC, j'avais évoqué cette idée d'amener les chrétiens à non pas aimer Dieu, non pas qu'à aimer Dieu, non pas qu'à obéir à Dieu, mais à lui faire confiance. Parce qu'on peut croire en Dieu, on peut aimer Dieu, on peut, entre guillemets, lui obéir et ne pas lui faire confiance. Et ça appauvrit énormément le chrétien, de ne pas apprendre à faire confiance à Dieu. Mais il va de soi que le chrétien doit comprendre certains sujets bibliques. Je suis convaincu que nous serions très étonnés si nous faisions une étude sur la consécration. Je serais très étonné que beaucoup, beaucoup de gens confondent ce qu'est une véritable consécration et, par exemple, le fait d'être fidèle à des réunions. Car il y a des gens pour qui la consécration, c'est être fidèle au culte. C'est tout. Ils sont consacrés à Dieu et je peux vous dire qu'on est loin, et loin de la véritable consécration. J'aimerais commencer avec un texte. J'aimerais aussi que l'on prie tout à l'heure les uns pour les autres. Je ne sais pas si vous vous connaissez suffisamment, si vous connaissez suffisamment les personnes avec qui vous travaillez. Est-ce que les musiciens se connaissent suffisamment? Est-ce que c'est important que les musiciens se connaissent bien, qu'ils prient ensemble, que les meneurs de chant prient ensemble, que les frères et sœurs, celui qui est à côté de vous, est-ce que vous le connaissez bien? Est-ce que c'est bien de prier avec lui? Oui. J'ai beaucoup réfléchi, vous savez que mon mi-temps me permet de beaucoup réfléchir et d'aller dans cette réflexion pour amener l'Église là où elle doit aller. Car il est hors de question d'amener l'Église dans une pensée intelligente qui pourrait me plaire. La volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Et chacun d'entre nous, nous devons veiller à ne pas nous laisser aveugler. Car croyez-moi que le diable fera tout pour que nous soyons aveuglés. Lisons un premier texte qui va nous introduire dans ce sujet. Et j'aimerais qu'on le prenne avec beaucoup de sérieux, que vous y réfléchissiez, que vous les notiez, afin que peut-être vous y reveniez dessus. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, il y a tout un enseignement sur l'importance de réagir soi-même. Car comme le meneur de chant l'a dit si bien tout à l'heure, il y a la part de Dieu, mais il y a la part de l'homme. Dans Éphésiens, au chapitre 5, c'est très bien écrit, on va lire du verset 8 au verset 14, qui nous indique ce que nous avons à faire pour être éclairés. Éphésiens, chapitre 5, verset 8. « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. » Voilà ce à quoi est appelé un chrétien à vivre dans la lumière. « Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Ce texte commence avec cette vérité, nous sommes des enfants de lumière, et il s'achève avec cette triste conclusion, à savoir qu'un chrétien peut tout à nouveau s'être fait laisser piéger par les ténèbres, et être dans les ténèbres. L'apôtre Paul va très loin, il dit « Mais réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, car il y a la possibilité pour des chrétiens de s'endormir, de s'assoupir, de vivre dans la paresse, de vivre dans l'inutilité, tout en étant fidèle à la réunion. » Et je crois vraiment que c'est de mon ressort, c'est du ressort des pasteurs, de nous amener tous à faire ce que Dieu veut. Est-ce que vous faites ce que Dieu vous demande? Attention avant de répondre. Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous voulez faire ce que Dieu vous demande? C'est déjà important que Dieu voit ce désir, dit oui, c'est peut-être pas ce qu'il faut, mais vraiment, je crois que ces prochaines réunions vont contribuer à m'amener à vivre ce que Dieu veut que je vive. Car vous êtes tous d'accord, si vous êtes convertis, qu'il ne peut pas y avoir d'épanouissement, quoi que ce soit qu'on ait, si on ne fait pas ce que Dieu nous demande. La véritable liberté, elle existe quand on fait chacun ce que Dieu nous demande. Alors il y a beaucoup d'épreuves, comme on l'a entendu dans les chants, c'est vrai, il y a beaucoup d'épreuves. Mais est-ce qu'il n'y a pas un grand Dieu capable de nous donner la victoire ? Est-ce que vous n'êtes pas impressionné quand vous lisez la Bible ? Je le faisais allusion tout à l'heure dans ma prière, dans ma prédication, quand vous voyez la résurrection de Lazare. Quand vous voyez la résurrection de Lazare, vous voyez ce que le Seigneur peut faire avec des chrétiens qui sont morts. Oui ou non ? Parce qu'un chrétien peut tout à nouveau s'endormir de telle sorte qu'il ressemble à un mort. Parce que quelqu'un qui dort peut s'assimiler à quelqu'un qui est mort. Vous êtes d'accord avec moi ? Voilà, c'est pour ça qu'il dit « Réveille-toi d'entre les morts, toi qui dors. » Et il n'y a rien de pire qu'une église qui s'endort. Et nous prenons tous le risque de nous endormir parce que c'est les autres qui font le boulot, parce qu'il y en a un qui fait ceci. Mais on ne se rend pas compte qu'on peut tomber dans un péché grave, celui de laisser les autres faire le travail. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses à partager. Je pense que nous les partagerons. Elles sont là dans mon cœur. Elles correspondent à des choses très pratiques que nous devons revoir, car nous nous sommes concertés avec tous les pasteurs de Toulouse et je suis heureux que nous soyons tombés d'accord avec la façon de voir certaines choses dans la marche de l'Église. Ça a été pour moi une très grande bénédiction, comme par exemple en septembre, prier tous ensemble et demander pardon pour tout ce qui s'est passé dans les églises. Est-ce que ce sont des choses que Dieu peut bénir ? Mais laissez-moi vous dire que nous avons suffisamment parlé pour travailler ensemble, les pasteurs, les églises, malgré nos styles, bien sûr, qui peuvent être différents, mais ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on soit fidèle à la saine doctrine et qu'on avance avec ce désir de voir des âmes sauvées, parce que c'est quand même le plus important dans une ville, c'est que des âmes soient sauvées, mais que l'Église soit édifiée, car on aura du mal à sauver des âmes si nous ne sommes pas édifiés, armés, capables d'accomplir ce travail auquel Dieu nous appelle. Quand vous verrez, regardez la façon dont Dieu a donné un enfant à Sarah et à Abraham, vous croyez que Dieu est capable de faire des choses merveilleuses. Vous le croyez ? Quand vous voyez l'enseignement d'Ézéchiel 37 sur la vallée des ossements desséchés, vous ne doutez pas un instant que Dieu peut mettre la vie là où il y a vraiment la mort. Mais c'est à nous de nous réveiller. C'est à nous de prendre la décision. Je sais qu'il y a des choses, par exemple, on a prié tout à l'heure, dans le quartier, il faut qu'on ait une direction de Dieu. Parce qu'il y a des nouveaux qui viennent à l'église et qui repartent parce qu'ils ne trouvent pas de place dans le quartier. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça vous est déjà arrivé de repartir ? Mais vous n'êtes pas les premiers. Moi, je crois qu'on doit prier pour que Dieu nous donne sa direction. Parce que ça devient, laissez-moi vous dire, un véritable problème quand vous entendez des gens qui vous disent « Monsieur Gaud, on est venu à la réunion hier soir, on était deux ou trois dans la voiture, on est reparti, on ne viendra pas parce qu'on ne peut pas se garer. » Ça devient un vrai problème. Et je crois que Dieu a la solution à ce problème. Est-ce que vous priez pour cela ou est-ce que c'est l'affaire des pasteurs ? Moi, je crois qu'on doit tous en faire un sujet de prière et avoir la victoire. Parce que est-ce que Dieu est capable de nous donner un local sur la rocade où tout le monde puisse se garer ? Est-ce que c'est dans les compétences du Seigneur de le faire ? Mais c'est beaucoup plus important que ce que vous pensez. Et ce sont des choses pour lesquelles on devrait vraiment intercéder. Peut-être que vous ne le faites pas. Je crois qu'il y a des choses à voir, comme prier pour les intervenants. Est-ce que vous priez pour les pasteurs ? Est-ce que vous priez pour ceux qui interviennent dans les réunions, pour les musiciens, pour les meneurs de chant, pour les prédicateurs ? C'est quelque chose qui devrait faire partie de votre vie. Ne me dites pas ce qu'un jour quelqu'un m'a dit « Ah, moi, je ne vois pas pourquoi il faut prier. » Eh bien, j'ai dit « Si, voilà, mais c'est ça, vous êtes un aveugle. » Quand on ne voit pas qu'il y a des besoins, on est un véritable aveugle. Alors, il se peut que les chrétiens se soient fait piéger. Par quoi un chrétien peut se faire piéger ? Je suis sûr qu'on pourrait faire une liste. Les plaisirs de la vie, est-ce que ça peut être un piège ? Ben oui, il y a des chrétiens. C'est pour moi qui l'invente. C'est Jésus qui l'a dit. Combien ont perdu la vie spirituelle parce que les plaisirs de la vie ont pris le dessus sur le plaisir qu'ils avaient qu'ils auraient dû obtenir en Dieu. Parce que quand on a du plaisir en Dieu, je suis persuadé qu'on n'a pas tellement envie de chercher des plaisirs du monde. Et si les plaisirs du monde nous attirent, c'est que peut-être on ne trouve plus de plaisir dans le Seigneur. Et ce sont des choses sur lesquelles le Seigneur peut nous éclairer. Peut-être qu'un chrétien peut être trop occupé par sa famille. Est-ce que c'est bien de s'occuper de sa famille ? Est-ce que c'est bien de prendre soin des siens ? Ben oui. Parce que la Bible dit que celui qui prendra soin des siens est pire qu'un infidèle. Mais est-ce que ça ne peut pas être un piège de ne s'occuper que de sa famille, de sa famille, de sa famille ? Eh bien, oui. Voyez, comme on dit, le proverbe, le trop et le peu gâtent le jeu. Et c'est une vérité. Il y a des chrétiens qui se sont endormis pour la simple unique raison qu'ils ont consacré tout leur temps à leur famille. Est-ce que les chrétiens peuvent être esclaves du confort? Est-ce que ça peut arriver? Ben oui, ça peut arriver. Est-ce que c'est bien d'avoir du confort? C'est bien, mais vous savez, quand toute la préoccupation d'un chrétien, c'est le confort, et améliorer toujours son confort, en pensant que parce que son confort s'agrandira, il sera de plus en plus heureux, laissez-moi vous dire que ce n'est pas parce qu'on a de plus en plus de confort qu'on est de plus en plus heureux, vous le savez mieux que moi. Est-ce qu'un chrétien peut être occupé que par ses intérêts personnels? Eh oui, on le voit, il y a des chrétiens, vous leur dites, tu as pas assez... Ah non. Je suis préoccupé, il me faut faire des heures sup, j'ai ça à faire. Je bénis Dieu pour les projets qu'on peut avoir. C'est bien d'avoir des projets. Est-ce que vous avez des projets pour 2013, des projets personnels? Est-ce que vous avez des projets? Est-ce qu'on peut avoir des projets? Oui, on a des projets. Mais, mes frères et sœurs, c'est une bénédiction d'avoir des projets spirituels. De pouvoir dire, est-ce qu'on peut gagner cette année des âmes? Est-ce que les rétrogrades de ce quartier pourraient revenir au Seigneur? Combien de rétrogrades il y a à Toulouse? Combien il y en a? Combien il y a de rétrogrades? Combien de gens ont pris le baptême, ont fait une expérience avec Dieu, ont donné leur cœur à Jésus et aujourd'hui sont dans les décors? Combien? Est-ce qu'on pourrait, par la puissance du Saint-Esprit, en voir plusieurs revenir? Ça devrait faire partie vraiment de la vision de l'Église, car vous connaissez le proverbe, faute de vision, le peuple périt. Et c'était la question avec laquelle je voulais commencer. Mais quelle est notre vision? Quelle est notre vision? Est-ce que notre vision, c'est d'entretenir notre salut, de venir à l'église, d'avoir un pasteur qui s'applique à nous faire des prédications, d'avoir une certaine vision, peut-être qui se situe au niveau de l'argent, car les moyens nous permettent de former des pasteurs, les moyens nous permettent d'aider au Niger, les moyens nous permettent de pourvoir pour la duplication du serviteur de Dieu, qui est un travail extraordinaire. Est-ce que notre vision s'arrête à cet aspect financier? J'espère que non. Que Dieu nous aide à améliorer tout l'aspect financier dans l'Église. Mais je crois que ça serait très grave et nous ressemblerions beaucoup aux chrétiens de l'Odyssée si nous pensions que c'est l'argent qui détermine la spiritualité dans une Église. Vous êtes d'accord avec moi? Béni soit Dieu pour tout ce qu'on peut faire. Mais je crois que ce qui est important, c'est que chacun d'entre nous, on fasse exactement ce à quoi Dieu nous appelle. Et laissez-moi vous dire que je sais par l'Esprit que plusieurs se sont démobilisés. Parce que j'ai parlé des intérêts personnels, j'ai parlé de la famille, et tout ça, si en soi, ce sont des choses qui ont de la valeur, la priorité, ça doit être quand même le Seigneur Jésus. Est-ce que Dieu est en premier dans notre vie? Est-ce que Dieu est en premier? Réfléchissant sur ce sujet, qui est pour moi un sujet presque inépuisable, compte tenu des textes de la Bible qui en parlent, je réfléchissais hier à tous ceux. Alors écoute, j'espère que vous allez bien comprendre ma façon de penser, mais c'est pour vous expliquer comment on peut se tromper. Je réfléchissais à tous les chrétiens avec qui j'ai discuté, qui, pas ici, mais c'est arrivé, des gens qui cherchent l'ascétisme, c'est-à-dire à devenir pauvre. Est-ce que vous savez que ça arrive? Des gens qui disent, voilà, après tout, heureux les pauvres, si j'ai rien, je serai peut-être disponible entre les mains de Dieu. Est-ce qu'il y a des ascètes? Est-ce que ça existe? Bien sûr que ça existe. Est-ce qu'il peut y en avoir chez les chrétiens des ascètes qui disent, voilà, moi, je plus pauvre je suis, mieux c'est. Comme ça, je risque pas de me faire piéger par l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on peut argumenter là-dessus? Mais un peu. Par contre, on peut tomber aussi sur d'autres catégories de chrétiens qui pensent l'inverse, qui disent au contraire, moi je préfère m'enrichir, moi je veux chercher à m'enrichir, comme ça en étant riche, eh bien je peux faire davantage l'œuvre de Dieu. Est-ce que c'est une façon de penser? Est-ce que ça tient debout? Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais pas aller là-dedans, mais je veux vous expliquer l'erreur dans laquelle les deux tombent. Parce que Dieu ne nous a jamais demandé de devenir des ascètes, Dieu ne nous a jamais demandé à chercher l'argent, Dieu nous demande de chercher d'abord le royaume de Dieu. Je vous donne cette pensée pour vous expliquer pourquoi des chrétiens sont tombés. Pourquoi des chrétiens ont chuté? Moi, je crois que si Dieu veut nous enrichir, eh bien, que Dieu nous enrichisse. Que surtout nous donne de la sagesse pour gérer cette affaire. Vous êtes d'accord avec moi? Le problème, ce n'est pas à nous de rechercher ceci ou cela. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est juste une pensée pour vous expliquer combien de croyants se sont tombés dans des travers parce que Dieu ne nous a jamais demandé à chercher ou la pauvreté ou la richesse. Mais tout simplement, et c'est ça la simplicité, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Dieu veut faire une œuvre, Dieu a des plans, vous le croyez? Franchement, on peut faire 10, 15, 20, 50, 100 réunions et partir de la Genèse à l'Apocalypse et voir chaque fois que Dieu a fait quelque chose, comment il l'a fait, de la façon dont il l'a fait, qui il a choisi. Mais vous remarquerez, et c'est la pensée que je veux que nous retenions pour être éclairés, pour commencer à être rééclairés, c'est que si Dieu ne trouve pas les hommes, les femmes, l'Église, l'œuvre de Dieu ne se fait pas. Et j'espère que vous voulez que l'œuvre de Dieu se fasse. Si vous avez regardé l'histoire des réveils, peut-être que vous avez acheté un livre sur les réveils religieux et vous avez remarqué qu'à peu près à chaque siècle, les réveils qui avaient commencé se sont éteints. Est-ce que je vous apprends quelque chose? Vous le savez à peu près. Chaque siècle, à peu près, clac, le réveil en place. Quand il y a 3-4 générations de chrétiens qui ont anticipé ce réveil, ça s'éteint. Et ça devient un milieu religieux. Alors, nous sommes dans la quatrième génération, je crois, des pentecôtistes, si je ne m'abuse. Je ne voudrais pas que nous connaissions le même sort. Vous aimeriez que le mouvement de Pentecôte s'éteigne et que Dieu soit obligé de susciter un autre mouvement? Est-ce que vous aimeriez? Non. Est-ce que Dieu peut faire l'affaire avec nous? Mais ça dépend que de nous. Ou nous nous endormons parce que nous sommes tombés dans une espèce de routine religieuse, et ça va, et c'est bien. Ou alors nous décidons de nous réveiller. Car si vous avez pris soin, peut-être ce n'est pas vous de le faire, c'est en tout cas c'est à nous de le faire, si vous avez pris soin de voir de la Genèse à l'Apocalypse, comment l'œuvre de Dieu se fait? À partir du moment où Dieu a créé l'homme, Dieu a utilisé les hommes pour faire son œuvre. D'ailleurs, Dieu ne s'est reposé qu'une fois qu'il a créé l'homme. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pendant les 6 premiers jours, si c'est des jours de 24 heures, si c'est des jours de 1000 ans, on ne va pas tomber dans ce débat, c'est ridicule. Dieu a créé l'homme. Dieu est assez grand pour créer l'homme, d'accord? Il a créé tout, et le 6e jour, il a créé l'homme. C'est ça? C'est ça. Et le 7e jour, Dieu se repose. Mais à partir de ce jour-là, tout ce qui va être fait, tout va être fait avec la collaboration de l'homme. Toujours. Certains spirituels vous disent que si Dieu veut faire quelque chose, il le fait sans le secours de l'homme. Eh bien, moi, je n'ai pas vu ça dans la Bible. C'est vrai que Dieu peut faire certaines choses. Par exemple, l'évangélisation de Saul de Tarse. Elle s'est faite comment? Est-ce que Dieu a eu besoin de la main humaine pour amener Saul? Peut-être qu'il valait mieux pas qu'il y ait une main humaine là-dedans. C'était bien comme ça, que ce soit directement le Seigneur Jésus qui le fasse tomber de son cheval. Est-ce que c'était bien? Mais d'une manière générale, l'évangélisation se fait comment? Par des anges ou par des hommes? Ça se fait par des hommes, toujours. Même l'Éthiopien, c'est un ange qui a dépêché Philippe et a dit « Philippe, va sur le chemin sur le chemin du désert. » Voilà. Mais ce n'est pas l'ange qui a fait le travail. Et si vous êtes soigneux, vous observerez que l'œuvre de Dieu s'est faite par des hommes. Toujours. Prenons un exemple, Noé. Dieu voulait sauver le monde ou Dieu voulait détruire le monde. Qu'est-ce qu'il voulait faire, Dieu? Les deux. Dieu voulait sauver le monde, mais Dieu aussi voulait détruire le monde. On peut le voir comme vous voulez. Mais en fait, de toute façon, c'est comme ça. Dieu voulait juger le monde et sauver le monde. Qu'est-ce qu'il lui fallait à Dieu? Il fallait un homme. Le problème, ce n'était pas d'envoyer un déluge. Le problème, c'était qu'il lui fallait un homme. Quand Dieu avait un homme, il pouvait sauver le monde. Et c'est exact. Alors, on peut reprendre tous les exemples. Le temps ne nous le permettra pas. Mais c'est comme ça. Quand Dieu voulait sauver l'Égypte, les Hébreux d'Égypte, il lui fallait un homme. Est-ce que Dieu avait la puissance de créer un bateau sans Noé? Mais il a créé les univers, les galaxies. Je ne vois pas. Quelle affaire c'était pour Dieu? Mais on n'a jamais vu Dieu construire une cathédrale. Par contre, Dieu a créé le grès dans les carrières pour que les cathédrales puissent être construites. Vous êtes d'accord avec moi? C'est exactement le même principe. Dieu pouvait très bien faire sortir les Hébreux d'Égypte sans Moïse. Écoutez, franchement, oui ou non? Mais il lui fallait Moïse. Moïse avait 40 ans, il a essayé par ses propres forces, il y fallait quelques années de plus de formation. Je crois qu'on ressemble beaucoup à Moïse. Est-ce qu'il fallait quelques années de formation à Moïse pour être prêt? Il lui fallait un homme. Ça a pris 40 ans. Sans Moïse, les Hébreux ne sortaient pas d'Égypte. Nous voulons que des âmes soient sauvées, nous voulons que des chrétiens reviennent. Sans l'Église, le travail ne se fera pas. Alors ça commence par des pasteurs, bien sûr, qui sont spirituels, mais ça commence par tous les chrétiens qui doivent réapprendre à se consacrer à Dieu, parce que le problème, il n'est pas dans la qualification, quoique ça joue énormément, que nous nous qualifions, le problème, il est dans la consécration. C'est vrai que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais Dieu cherche quelqu'un. Et s'il y avait un verset clé qui permettrait de comprendre le service, ça serait quand Dieu a dit, mais qui enverrai-je? Vous connaissez Isaïe chapitre 6. Qui enverrai-je et qui marchera devant nous? Le Seigneur introduit la Trinité dans cette fameuse question. Puis il dit, qui marchera devant nous? Il fait allusion, bien sûr, à la Trinité, au Père, au Fils et au Saint-Esprit. J'entendis la voix du Seigneur qui disait, mais qui enverrai-je? Mais ce soir, écoutez-moi mes frères et sœurs, c'est bien sûr c'est au travers d'un instrument bien qu'imparfait, mais la question est la même, la question elle est posée par Dieu lui-même, et écoutez bien, même si je l'exprime mal, c'est la même question, qui enverrai-je? Quelle est la jeune femme ce soir, ou la femme la plus âgée? Quel est le jeune homme, ou le frère plus âgé, qui entend la voix du Seigneur, qui dit au travers de mon ministère, mais qui enverrai-je? Qui trouverai-je? Quelle assemblée trouverai-je? Quelle église va revenir à Dieu et ouvrir les yeux et se réveiller? Parce que ce n'est pas Dieu qui va envoyer des anges pour vous secouer. J'en ai parlé dernièrement, cette chrétienne qui priait, Seigneur, force-moi à faire ta volonté. Je vous le dis avec beaucoup de sérieux, Dieu ne vous forcera jamais. C'est une question d'amour, c'est une question de cœur. Si je me réveille, c'est moi qui décide de me réveiller parce que j'ai envie d'être utile entre les mains du Seigneur. C'est toujours comme ça que ça doit se passer. C'est à nous, c'est pour ça que je vous ai dit que ceux qui ont une responsabilité viennent ce soir dans l'Assemblée. Je ne le fais pas souvent. Je devrais le faire plus souvent. C'est de la négligence de ma part. C'est un manque de sérieux de ma part. Il va de soi que dans bien des domaines, j'ai été plus gentil que spirituel. Et je ne dis pas ça pour me m'auto-flageller. Parce que c'est la vérité. J'en parlais tout à l'heure avec un jeune homme qui fait de la musique. Il y a des choses à voir au niveau de la musique. Il y a des choses à voir au niveau des meneurs de chant. Il y a des choses à voir au niveau des évêques. Et tout ça, si c'est conforme à la parole de Dieu, Dieu bénira. C'est une loi. Dieu honore toujours sa parole. Alors la question que je nous pose à nous qui sommes venus ce soir, et à vous qui écouterez l'enregistrement, mais qu'allez-vous décider? Car la question, c'est Dieu qui la pose. Ce n'est pas un pasteur pentecôtiste de Toulouse. Mais qui enverrai-je? Et béni soit Dieu, Esaïe, touché par la grâce de Dieu, va dire, me voici, envoie-moi. Le ministère d'Esaïe va prendre un tournant particulier à partir de ce moment-là, même si Dieu l'a beaucoup utilisé. Si vous lisez à partir d'Esaïe chapitre 6, vous voyez que le ministère d'Esaïe, c'est quand même autre chose. Parce qu'un homme a dit, me voici. Ce n'est pas du pipeau, c'est la vérité. Me voici. Et moi, je crois vraiment qu'il y a un aveuglement terrible parce qu'il y a ce manque de consécration, en premier dans ma vie. Je vous ai régulièrement parlé parce que c'est quelque chose par lequel Dieu m'avait parlé. Samson représente l'homme qui a été appelé par Dieu, qui est consacré à Dieu. Un Naziréen, à l'époque des juges, à l'époque de l'Ancien Testament, c'était quelqu'un qui était entièrement consacré à Dieu. Entièrement consacré à Dieu. Et pour qu'on comprenne bien, la consécration dans ce cas de figure était dans les cheveux. Vous connaissez les soirs de Saint-Sauveur, il ne devait pas se couper les cheveux, il ne devait pas prendre de liqueurs fortes, boire du vin. Les liqueurs fortes représentent les joies extraordinaires que le monde essaie de nous proposer. On devrait s'abstenir, je crois, de ces choses. Le vin représente la joie du monde que l'on peut avoir dans le monde. Je crois qu'un chrétien, il peut s'abstenir des joies du monde. Samson était invincible. Personne n'a jamais été aussi fort que cet homme. Vous avez lu, si vous n'êtes pas converti, vous pouvez douter de la véracité de Juges, chapitre 14, 15, 16, et je crois 17. Vous pouvez douter de ces affaires. Vous savez que ce qui s'est passé, à un moment donné, l'ennemi a usé pour pouvoir faire en sorte qu'on découvre d'où venait la force de cet homme. Et vous savez ce qui s'est passé? On a coupé les cheveux à Samson, qui croyait, lui, s'en tirer d'affaire. Et je vais vous poser une question. Quelle est la première chose qu'on a fait à Samson après qu'on y ait coupé les cheveux? On lui a crevé les yeux. Et c'est là où je veux en venir. C'est que lorsque la consécration disparaît, le diable peut nous aveugler. Parce que je ne pense pas que beaucoup auraient pu lui crever les yeux avant. Mais ça a été un jeu d'enfant de le faire après. Et je sais qu'il y a des choses qu'il faut voir. Par exemple, je le dis, que personne ne se sente visé, parce que ça pourrait se présenter. Quand un chrétien, je donne un exemple, mais vous comprendrez que c'est extrêmement sérieux. Quand un chrétien vient d'une autre église, est-ce que c'est normal de lui donner une responsabilité de suite, comme ça, sans avoir un entretien avec lui? Mais moi, je l'ai fait. Je ne l'ai pas fait à tous les coups, mais ça m'est arrivé. Compte tenu du travail, enfin, bon, c'est facile de trouver des excuses. Moi, je crois, parce que je l'ai vu et je l'ai vérifié, que pour des raisons de doctrine, des raisons graves, un chrétien soit amené à changer d'église. C'est tout à fait logique. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous avez besoin d'explications, posez-moi la question après. Mais il est arrivé que des chrétiens viennent d'autres églises avec dans leur cœur plein d'amertume. Et le résultat, c'est que comme ils n'ont pas réglé les problèmes, ils ont projeté ça dans l'activité qu'ils ont pris. Et ça, c'est une maladresse. C'est une maladresse. Il faudrait dire la vérité. C'est un péché de la part des pasteurs qui n'ont pas pris le temps d'être soucieux pour aider la personne. Parce qu'en fin de compte, c'est pour aider la personne. Parce que la personne, si elle vit avec de l'amertume, elle repartira un jour avec de l'amertume et elle produira et elle se perdra. Parce que personne n'y gagne là-dedans. Mais en attendant, l'œuvre de Dieu ne se fait pas comme il faut. Alors moi je comprends, parce que je sais très bien que c'est une chose qui aurait pu m'arriver en tant que chrétien, de devoir, parce que la doctrine n'est pas respectée dans une église, de devoir changer d'église, je le comprends, mais je suis persuadé qu'il faut veiller à ce que les personnes soient dans un bon état d'esprit, pour tout le monde. Alors je vous donne un exemple, j'en ai pris plein d'exemples, on n'aura pas le temps de les voir. Mais je voudrais ce soir que nous comprenions quelque chose, c'est que quand on est consacré à une activité, il faut se consacrer à une activité. Qu'est-ce que vous diriez si dimanche matin, je dis, mais je reste au lit, je suis fatigué, qu'il n'y ait pas de personne pour me remplacer. Mais qu'est-ce que vous diriez si vous appreniez qu'un dimanche matin, ou alors que je monte sur l'estrade, que je me dis, écoutez, je suis crevé, je n'ai pas eu le temps de me préparer. Écoutez, on va faire confiance au Saint-Esprit, on va prendre un texte, moi j'aime bien l'évangile de Jean, on va lire. Qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que vous diriez? Répondez-moi. Qu'est-ce que vous diriez? Parce que ça, c'est déjà arrivé, ça. Pas ici, mais c'est déjà arrivé. Qu'est-ce que vous diriez? La première, mais merci. C'est bien. Ça, c'est bien. La première fois, on pardonne. La deuxième fois, on pend. C'est ça? On sourit. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ces situations? Ça arrive. Moi, je crois que vous le supporteriez une fois, peut-être, et encore. Et encore. Imaginez-vous que pour la première fois, pour la seule fois, deux ou trois nouveaux qui viennent à ce culte et qui entendent ça. Eh bien, on scandalise les gens et on perd les gens. C'est pour ça que Jésus a dit « Malheur à l'homme par qui le scandale arrive ». Parce que quand on ne nourrit pas les chrétiens, eh bien, on finit par les scandaliser. Je vous donne cet exemple, c'est grotesque, mais ça peut quand même se présenter. Et quand on voit des gens « Ah ben moi, je ne suis pas venu parce que j'étais crevé », je crois qu'au travail, on y va même si on est fatigué, oui ou non? Est-ce qu'on va au travail lundi matin, même si on est fatigué? Bon, je vous pose une question, elle est très sérieuse, c'est pas un piège, c'est pas du tout mon style en plus. C'est quoi le plus important, en vérité? Le Seigneur ou le travail? Sérieusement, moi je crois que c'est le Seigneur. Je le dis franchement. J'ai travaillé 5 ou 6 ans dans le monde avant d'être pasteur. Mais je crois pouvoir dire que même quand je travaillais sur des chantiers, je crois pouvoir dire que le plus important pour moi, c'était d'être fidèle dans la réunion où Dieu m'appelait. Je dis ça parce qu'on en est arrivé à un stade où il y a dans des églises, je ne parle pas jusqu'à Saint-Agne, mais les gens abandonnent. Voilà, ben non, je ne peux pas. Ah ben non, on va au resto ce soir avec ma femme, on est invité. Je pensais bien d'aller au restaurant de temps en temps. Mais franchement, est-ce que vous allez comparer la joie de servir Dieu et un bon petit repas au resto? Écoutez, si on en est là quand même. Alors, je veux pas noircir, j'aurai le temps certainement, peut-être dimanche je continuerai sur ce sujet, parce que je sais que Dieu cherche quelqu'un. Dieu cherche des gens qui le cherchent. Dieu ne cherche pas des gens qui se spécialisent. Est-ce qu'on peut se spécialiser dans la musique, par exemple? Est-ce que ce serait bien que les musiciens se perfectionnent dans la musique? Bien sûr. Qu'est-ce que vous préférez, que les musiciens se perfectionnent dans la musique ou qu'ils se perfectionnent dans la consécration? Bien sûr, on a des spécialistes. Mais moi, je crois. Mais de toute façon, une chose est sûre. Si les musiciens se consacrent à Dieu, ils ne pourront pas faire autrement que de se consacrer, que de se perfectionner dans la qualité de la musique. Et ce qui se passe dans les églises, et c'est ça le piège, c'est qu'on pousse les gens à se perfectionner dans une activité, ce qui n'est pas malsain, mais les gens ne se consacrent pas à Dieu. Et le résultat, c'est que les gens s'épuisent. Et après, les gens disent, moi j'en ai marre, je ne fais plus rien. Quand on fait ce que Dieu nous demande, on ne s'épuise pas. Quand on fait ce que Dieu nous demande, on s'épanouit. J'en suis persuadé. Alors, moi je voudrais que nous comprenions que l'œuvre de Dieu ne se fera pas si Dieu ne trouve pas des hommes, des femmes, une assemblée, quel que soit le nombre, mais qui véritablement disent, voilà, Seigneur, tu m'appelles à ça. Il y a des ados, il y a des enfants, il y a le ménage, il y a ça, il y a ci. On en parlait, je vais vous donner un exemple. Je vous donne un exemple pour expliquer l'état de cœur que Dieu veut. Dieu ne veut pas des gens qui servent, Dieu veut des gens qui ont un cœur de serviteur. Parce qu'il y a des gens qui servent, mais ils ne sont pas des serviteurs, ce sont des commandeurs. Je prends un exemple. Je vis avec ma femme, on vient un samedi matin. On a une heure pour faire le ménage. Madame Bourdelle est là, qui est responsable du ménage. Et elle nous dit, j'ai dit voilà Madame Bourdelle, est-ce qu'on pourrait nettoyer une pièce? Est-ce que ça peut se présenter? Ça s'est déjà fait. Et qu'elle me dit, Monsieur Gault, faites les WC. Qu'est-ce que je vais faire d'après vous? Je vais lui dire, mais Madame Bourdelle, je suis le pasteur de l'église. Je suis le pasteur responsable de l'église. Je ne peux pas faire le bureau du pasteur, tiens. Franchement, un serviteur, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas là pour commander Madame Bourdelle. Le serviteur, il est là pour la joie de servir le Seigneur. Et on est arrivé à un tournant où des gens ne se rendent même plus compte qu'ils veulent commander. À moi, je ne fais pas les enfants, parce que les enfants, moi, ça me saoule. À moi, je ne fais pas les ados. Parce que les ados, est-ce que c'est difficile de s'occuper des ados? Est-ce que ce n'est pas une grâce d'avoir 30 ados dans l'église? Est-ce que c'est une grâce d'avoir 30 ados? Mais c'est une grâce, mes frères et sœurs. Est-ce que Dieu veut sauver ces 30 ados? Mais moi, je le crois que Dieu veut sauver ces 30 ados pour que ces ados, à leur tour, soient des bénédictions pour sauver les autres. Et ainsi de suite. Et il faut retrouver cette joie de servir Dieu. Il n'y a pas à tortiller. On doit aimer. Bien sûr que les bouchons, ça... Les bouchons de... Est-ce qu'il y en a des bouchons à Toulouse? Mais alors, tant pis, j'arriverai en retard, mais ce n'est pas grave. Mais j'irai, et j'irai avec cœur, et je ferai ce que Dieu me demande. Et je chercherai Dieu, comme je disais tout à l'heure, j'ai pris deux exemples. Je ne chercherai pas l'ascétisme parce que ça fait BCBG, ou je ne chercherai pas la richesse parce que je vais pouvoir donner tant et plus. Non, je vais chercher le Seigneur. Et le Seigneur me conduira. Et le Seigneur m'apprendra. Mes frères et sœurs, je crois que l'Église est à un tournant. Je sais que Dieu a permis qu'il m'arrive cette bricole que j'ai eue pour que je m'applique, moi, à mon ministère. Parce que la Bible dit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Et c'est vrai que plus on est nombreux, plus un pasteur... Moi, je vois, là, j'ai repris à mi-temps. Mais je vois, je n'ai pas besoin d'avoir d'emploi du temps. Vous voyez, tout à l'heure, il y a une dame qui m'a appelé pour faire un enterrement jeudi matin. Est-ce que c'est ma place d'aller faire un enterrement? Franchement, est-ce que vous pensez que c'est bien que j'allais prêcher à des gens qui sont perdus? Est-ce que c'est pas ça à quoi Dieu m'appelle? Est-ce que c'est bien? Mais bien sûr que c'est bien. que je puisse aller prêcher la croix à des gens qui sont certainement désespérés, à toutes ces mamies dans cette maison de retraite qui vont peut-être partir dans l'éternité dans quelques jours. Vous voyez, est-ce que c'est important que ces mamies entendent parler que Jésus est mort sur la croix pour eux et qu'il est... Voilà, c'est ce que Dieu me demande. Mais mes frères et sœurs, si chacun d'entre nous, nous nous mettons à chercher Dieu, à nous dire « Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» ou « Qu'est-ce que tu veux que je refasse dans l'Église ?» Parce que Dieu peut orienter une personne dans un domaine, Dieu 3 ans après peut vous amener, je ne sais pas. Est-ce qu'un musicien peut être amené à être responsable des ados ? Est-ce que ça peut arriver ? Mais bien sûr, le Saint-Esprit, il est souverain. Je ne sais pas, si quelqu'un est appelé pasteur, il se peut que Dieu puisse permettre que cette personne-là ait plusieurs cordes à son arc. Est-ce que c'est sain ? Bien sûr. Est-ce que c'est intelligent ? Bien sûr. Mais tout ça, ça se découvre en cherchant Dieu. Et quand moi j'entends des responsables qui me disent « Ah mais moi je n'ai pas le temps de chercher Dieu », je me demande est-ce qu'ils doivent être responsables ? Est-ce qu'ils doivent être toujours responsables ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous vous rendez compte si je vous disais, parce que vous ne comprenez peut-être pas trop, mais si je vous dis ben, « je n'ai pas le temps de préparer les prédications », vous allez me dire « Mais monsieur Gou, vous êtes appelé à cela ». Et si Dieu vous a appelé à vous occuper des enfants, vous avez, c'est obligé, du temps de qualité pour vous occuper des enfants. C'est sûr que si vous passez 3 heures tous les soirs devant la télévision, eh bien, consacrez-vous à la télévision. Achetez le meilleur écran plat, consacrez-vous dans les programmes télé, mais ne vous permettez pas, ne vous permettez pas de servir Dieu dans ces conditions. Et je voudrais qu'on prie, qu'on demande au Seigneur de nous aider. Vous êtes d'accord pour qu'on demande au Seigneur de nous conduire, de nous aider, que vraiment le Seigneur nous aide ? Moi, il y a des choses que j'aurais aimé, vraiment. Je pensais, vous voyez, au désir de Anne. Vous savez, cette femme qui était pleine d'amertume. Comment elle priait pour avoir un enfant ? Vous rappelez qu'elle priait pour avoir un enfant ? Est-ce que c'était bien qu'une femme ait un enfant ? Mais sa souffrance l'a amenée à changer de désir. Et à la place de demander un enfant pour elle, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a demandé un enfant pour le Seigneur. Si vous lisez la suite, vous allez voir qu'elle a eu des gosses après. Mais elle avait un désir. Seigneur, mais si tu me donnes un fils, je te le consacrerai. Et je crois que c'est dans cet état d'esprit qu'il faut voir cette réunion. Seigneur, c'est vrai que je t'ai demandé ça, mais je te le demandais pour moi. Seigneur, mais c'est pour moi. C'est vrai que ça te glorifiera. Mais Seigneur, mon désir, c'est de voir des âmes sauvées. Mon désir, c'est voir l'édification de l'Église. Mon désir, c'est de voir tous les ados se convertir. Si Dieu nous a donné des enfants, ce n'est pas pour qu'ils se perdent. Vous croyez que Dieu nous a donné des enfants pour qu'ils aillent en enfer ? Peut-être que vos enfants sont petits, mais un jour ils seront grands. Et vous serez heureux d'avoir des animateurs ados qui s'occupent d'eux. Oui ou non ? Peut-être que vos enfants, ils ont 2 ans, 3 ans, c'est sûr qu'ils ne sont pas encore des ados. Mais est-ce que vous n'aimeriez pas que quand vos enfants seront, ils aient des animateurs ados consacrés ? Vous voyez ? Parce qu'on pense, quand on pense à l'ensemble, moi les enfants de l'église, c'est presque tous mes enfants. Pourquoi ? Parce qu'on les veut tous sauver. Et ça passe par une véritable consécration. Et il faut peut-être que nos désirs commencent à devenir les désirs de Dieu. Seigneur, tu vois, cet enfant, ce n'est pas pour moi que je le veux. Je le veux, c'est pour ta gloire. Je pense que ça a bien marché. Quand on voit ce qu'est devenu le prophète Samuel. Et cette femme, ce qu'elle est devenue, est-ce qu'elle a pu écrire ? Son cœur a été changé et pourtant elle était pleine d'amertume parce qu'elle n'en pouvait plus de voir cette affaire qui durait depuis des années. Peut-être que vous êtes pleine d'amertume parce que Dieu n'a pas exaucé vos prières, parce que si, parce que là. Et on n'a pas jugé. En tous les cas, l'amertume dans l'âme, elle a prié et son visage à jamais, ne fut plus jamais le même. Et je crois que c'est ce que Dieu veut, que nous changions, que nous disions, mais Seigneur, c'est vrai, on commence cette année. Est-ce que vous vous rendez compte la grâce que l'on a ? On est en crise, les gens se plaignent, c'est sûr, vous écoutez les météorologues, et il va encore pleuvoir, mais ils sont malades les météorologues. Ils pourraient bénir Dieu de ce qui pleut. Mais c'est pour vous dire, j'en ai parlé, et je le redis, comment les journalistes, je prends les météorologues parce que c'est très fort, comment ils essayent de nous décourager. Mais laissez-moi vous dire qu'il n'est plus en décembre et qu'il n'est plus en janvier. Laissez-moi vous dire que c'est une grâce de Dieu. Et qu'au moins les météorologues pouvaient avoir le bon sens de dire, écoutez, il va pleuvoir demain. C'est très bien. On a besoin d'eau pour nos nappes phréatiques, etc. etc. Mais voyez, oh non, il va pleuvoir, c'est l'hiver. Vous voyez, c'est comme dire, il fait jour, il fait soleil. Mais mes frères et sœurs, qui c'est qui vous influence ? C'est le monde qui vous influence ? Ou c'est la grâce de Dieu qui vous pousse ? Seigneur, éclaire-moi. Éclaire-moi tout à nouveau. Je ne veux pas ressembler à Samson qui tournait la meule, franchement, qui tournait la meule dans la prison de l'ennemi. Combien de chrétiens tournent en rond, un an a passé. Vous devrez avoir l'honnêteté de dire, mais depuis un an, depuis deux ans, qu'est-ce que j'ai fait? Quels sont les progrès que j'ai fait? Si vous n'avez pas fait de progrès, acceptez avec beaucoup de joie que vous tournez en rond. Eh oui, j'ai pris ça, mais ma famille, mes enfants, mon boulot, mes intérêts, et ceci et cela, je tourne en rond. C'était le travail des bêtes de somme. Et quand on voit que le grand juge d'Israël était dans la prison, heureusement qu'il s'est repenti et qu'il a pu terminer comme un grand héros de la foi. Mes frères et sœurs, je ne sais pas comment vous voulez terminer. Vous ne voulez pas terminer en tournant en rond? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut terminer en tournant en rond? Il y a quelqu'un? Voilà, je tourne en rond. Oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. On entend des chrétiens. Oh, il y a 30 ans, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais c'est bien. Mais moi, j'aimerais qu'on puisse dire en 2013, par la grâce de Dieu, on va voir tous nos adolescents sauvés. Et demander, cherchez Dieu. Ne cherchez pas un truc qui vous plaît. Ne cherchez pas un service qui vous plaît. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vous savez, Saul de Tarse, on ne s'étonne pas. Moi, je ne m'étonne pas pourquoi. Quand Dieu l'a choisi, il n'a pas dit, Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Non, mais aujourd'hui, quand les gens se convertissent, c'est la première prière de Saul de Tarse, le persécuteur de l'Église. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dieu ne se trompe pas, vous savez. Dieu savait que vous seriez là ce soir. Dieu le savait. Alors, c'est sûr que si je prends toutes mes notes, mais mes frères et sœurs, est-ce que vous seriez d'accord qu'on commence à bénir celui qui est à côté de nous? Que par du pratique. Seigneur, moi je veux bénir. Seigneur, je veux bénir la personne qui est à côté de moi. Je veux la bénir. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on peut terminer cette réunion en bénissant son prochain? Vous le connaissez, celui qui est à côté de vous? Vous connaissez les sœurs qui sont à côté de vous? C'est des bénédictions? Eh ouais. On est comme si on était le seul chrétien. Noé, quand il a la réunion de prière, t'es tout seul. Ça fait pitié quand même. Et nous, on est là, on pourrait être des milliers à Toulouse. Je suis sérieux, on pourrait être des milliers de chrétiens à se retrouver et à dire, mais demain, alors voilà, je vais prendre un évangile de Jean. On n'arrête pas de vous le répéter. Tiens, parce que demain, je veux distribuer un évangile de Jean. Il y a une sœur, tous les dimanches, elle achète 5 ou 6 évangiles et 2 ou 3 Nouveaux Testaments. Une fois, j'étais là voir mardi après-midi. Elle me dit, il me reste qu'un Nouveau Testament. Est-ce que vous vous rendez compte? Une sœur de 80 ans. Toutes les semaines, elle prie. Elle dit, Seigneur, tu vois, j'ai ces Nouveaux Testaments dans mon sac. Envoie-moi quelqu'un. Ou quand j'irai chez l'épicier. Ou quand j'irai ici. Et chaque semaine, Dieu, c'est son service. Est-ce que vous croyez que ça vaut la peine? Ben oui, parce qu'en plus, quand on a donné l'évangile à quelqu'un, il n'a aucune excuse. Est-ce que ça peut être un service, ça? Alors on va se lever. On va se lever. Vous voulez bien vous lever? Est-ce que vous voulez bien prier? Mettez-vous par 3 ou 4 et priez les uns pour les autres. Les stagiaires, allez avec 2 ou 3 personnes. Allez vers quelqu'un. Dites, voilà, je veux prier. Allez avec quelqu'un. Priez ensemble. Je vous en supplie. Mais priez ensemble. Et priez de tout votre cœur. Alors on ne prie pas parce qu'il faut prier. Mais on prie parce que quand on prie, Dieu nous voit et Dieu nous entend. Priez ensemble. Allez-y, mes frères et sœurs.